Bonjour à tous, les thèmes abordés aujourd'hui sont les valeurs du Grison Antioche et le Credo. Ils seront présentés par John Tressel. Bonne écoute à tous.
Qui était là à Pâques? Ma majorité, oui, à peu près. À Pâques, on a présenté, vous m'entendez bien? Ouais. À Pâques. À Pâques, on a présenté deux points que nous estimons, nous, l'équipe apostolique, nous estimons très importants. C'était le credo et les valeurs et principes d'Antioche. Pour ceux qui étaient à Pâques, vous l'avez entendu. Amen. Il n'y a plus rien à dire. Sauf pour la session ce matin, on y revient. Et il y a une simple raison, on n'a pas eu beaucoup de remontées. On n'a pas eu, franchement, pas d'écho de ce qui s'est produit dans les églises. Qu'est-ce que vous avez fait avec ? Présentation de la credo, du credo. C'était quand même, je ne sais pas si tout le monde venait à Pâques. Oui, à Pâques, oh c'est super, on va parler du credo. Je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de monde qui anticipait le credo à Pâques. Non, mais nous avons la conviction, c'est important. Dans les discussions, on voit qu'on est dans une tension, nous quatre. On est dans une tension, on essaie de faire avancer le royaume, on essaie de faire avancer le réseau, et on est tenu entre deux positions qui se manifestent partout dans le passé, dans la vie que nous avons vécue. J'ai vécu ce que je vais dire, et chacun a vécu à sa manière les deux extrêmes, et on ne les veut pas. Je vais dire les deux extrêmes, pour que tiens, tu vas comprendre. D'un extrême, c'est d'imposer des choses, vraiment imposer, rigide, légaliste. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est absolument pas notre intention d'imposer, de faire super structure avec tous les points, tous les i pointés, tous les t croisés. Et ce n'est pas notre intention. Mais de l'autre côté, on vit une vie de réseau, c'est nouveau. C'est nouveau pour nous tous. Quelqu'un a vécu une vie de réseau avant Antioche? Quelqu'un? Donc, pour vous tous, c'est nouveau. L'autre extrême, c'est laisser aller. Ah oui, vous êtes tous les églises indépendantes, mais vous êtes attachés au réseau. Chez vous, faites ce qui vous semble bon. Ah, vous savez déjà? C'est pas ça. C'est pas ça. Et de trouver l'équilibre entre une imposition, il faut faire légaliste, de style légaliste, je l'ai vécu. Pour Michel, oui, pour nous tous, nous l'avons vécu. Et on n'aime pas ça. La plupart des personnes, on n'aime pas ça. De l'autre côté, une liberté totale. Ce n'est pas ça parce que ça va aux dérives et on ne peut rien faire de cohérent. Je vais revenir sur le mot cohérent parce que c'est vraiment notre désir. On cherche à avancer dans le réseau d'une manière cohérente. On s'entend, on se comprend et on fixe les mêmes objectifs sans que ça soit une loi votée pour tous, pas tous. Amen. Pour le credo, il y a beaucoup de gens, moi compris, dans le temps, pourquoi dire le credo, c'est vieux jeu, ça ne s'applique pas à nos jours, c'est l'église catholique, réformée, et j'en passe. Et nous sommes la dernière génération, on est dans le coup, nous. Personne n'a jamais pensé comme ça. Hein? Rudy? Oh, là. Et il sourit, c'est bien. Ou la notion que le crayon n'est pas pertinent pour la vie de tous les jours. Ces notions, je les comprends parce que je les pensais moi-même. Mon livre, j'ai oublié mon livre. Tu peux me jeter. Ah. Apocalypse, et alors, le credo est dedans. J'ai écrit le credo dans le livre il y a à peu près 2 ans. C'est un livre à lire. Et dans le credo, j'ai dit quasiment toutes les dénominations du monde, il y a une exception ici et une autre là-bas, mais quasiment toutes les dénominations du monde le proclament, le croient. Et c'est un des seuls traits d'union, c'est le seul point qu'on a avec beaucoup de dénominations. Et ça nous lie ensemble. Ça lie quelque part spirituellement, ça lie le corps du Christ ensemble. Le credo, ce n'est pas la Bible. Mais c'est résumé, c'est distillé de toutes les vérités de la Bible. C'est mis en condensé d'une manière abordable. Je me souviens, je crois que c'était plutôt Michel qui l'a dit. On l'a discuté l'été passé. Et il a dit, je me demande, je vous pose la même question. Je vous demande, si vous prenez quelqu'un chrétien lambda de l'Église, et vous posez la question, pouvez-vous expliquer doctrinalement ce quoi ta foi est basée? Oh, même un nevers. Ah oui, non. Il n'y a pas un nevers là-bas. Là. On est tombé sur la conclusion entre nous, on aura des surprises. Explique succinctement ce croit votre foi est basée. Jésus est sauveur, il est Seigneur, il guérit. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais ça n'a rien à faire avec le credo qui est le fondement de notre foi. Ce que je viens de dire, il est sauveur, Seigneur, il guérit, il baptise dans le Saint-Esprit, etc., etc. C'est l'action actuelle qu'on voit dans l'Église. Mais ce n'est pas la base authentique de notre foi. Le credo clarifie la position doctrinale des chrétiens. Une fois pour toutes. C'est posé. Tout simplement. Il y avait des credos dans la Bible et vous savez, les Juifs, Deutéronome 6, écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'était le credo. Et ça existe toujours. Dans le Nouveau Testament, il y avait des credos dans le Nouveau Testament? Quelqu'un peut dire? Il y avait un credo qui était répété partout. Plus simple possible, Jésus est Seigneur. Et c'était une forme de credo. Les gens se saluaient. Jésus est Seigneur. C'était dit avant, pendant et après le repas. C'était une expression tout à fait courante. Donc, je reviens sur la notion de cohérence. Le credo donne une cohérence pour toutes nos églises. Si, je vais un peu loin, si quelqu'un dispute le credo, il dit, oh mais il ne faut pas le faire, c'est pas bon, c'est pas juste, il faut revoir. Observation personnelle, il a un esprit de dispute. Il s'oppose au siècle de vérité déposé au sein de toutes les églises du monde. On cherche une base cohérente, solide, un véritable point de repère. On peut se référer. On sait ce que ça veut dire et on est stabilisé. Je passe à quelques avantages. Je le lis vraiment en diagonale. Je n'entre pas dans le vif du sujet, pas vraiment parce que vous l'avez entendu à Pâques. Je les touche brièvement et on va passer un temps de discussion. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre église? Première question que vous allez voir sur l'écran, est-ce que vous avez présenté le credo à votre église? Est-ce que vous le dites ensemble? Dimanche ou jeudi ou je ne sais pas quand, est-ce que vous le dites ensemble? Et il n'y a pas de jugement derrière, il n'y a pas de critique derrière. C'est une question, chacun s'examine, on l'a fait, on ne l'a pas fait. Mais pourquoi ce n'était pas fait? Est-ce qu'il y a moyen de présenter, de le faire? Première chose, le credo présente la vérité. Et la vérité, c'est par la vérité que nous sommes affranchis. Je me souviens, il y a 3-4 ans, j'ai prêché le credo dans mon église, à Mulhouse. Et j'ai trouvé une telle richesse. Qui c'est la première ligne du credo? Je crois, vous dites. Je crois en Dieu le Père. Je m'arrête là. Je m'arrête tout simplement. La vérité, je crois en Dieu le Père. Est-ce que Dieu est ton Père? Il y a beaucoup de gens qui disent, je crois en Dieu le Père. Ok, c'est bon. Mais est-ce qu'il est ton Père? Perso. Cœur à cœur. Est-ce qu'il y a cette relation établie où c'est « je crois en Dieu le Père » En tant qu'ado, j'étais dans une église, c'est une contradiction, je le sais. J'ai grandi dans une église évangélique libérale. Ça, c'est difficile à concevoir. Une église évangélique qui ne prêche pas l'évangile du tout. Mais c'est l'héritage. Mais on disait le credo. Moi, je lisais le credo, je crois en Dieu le Père. Ça n'avait pas de sens. Mais si on dit le credo, c'est pour le rendre personnel pour chacun et pour l'Église, pour qu'on le vive ensemble. Le credo corrige, deuxième point, le credo corrige, dis-moi que c'était moi. Tu coupes. Oh. Là, c'est la première fois que le téléphone de l'orateur le coupe. C'est ma femme, elle ne répond pas. Le credo corrige les erreurs. Si on dit que le credo est vrai, ça présuppose qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. Et l'univers actuel est rempli des choses qui ne sont pas vraies. Première fois que j'étais vraiment impacté, et là, mes amis, j'étais impacté. En tant que franco-américain, j'étais tabassé. George W. Bush se présentait pour l'élection présidentielle la deuxième fois. Et à l'époque, j'écoutais France Info. Je n'écoute plus France Info. C'est terminé, relation d'amour est finie. Et France Info annonce un jour, on a trouvé la ville en Amérique qui représente fidèlement tout le pays. Cette ville vote toujours pour le président. Et on envoie une armée de journalistes dans cette ville. Donc, j'écoute. Et quand ils annoncent, c'est dans le canton, dans l'Ohio, je dis, mais c'est ma ville natale. C'est ma ville natale représente tout le pays. Et Enfin, j'étais enthousiasmé. Ça va, waouh ! Je l'ai dit à tout le monde pendant 2-3 jours. Et les émissions commençaient à venir. Les journalistes allaient dans la rue, dans la ville de Canton, ils interviewaient les gens. Et c'est là que j'ai entendu, que j'ai compris l'esprit de mensonge qui circule dans ce monde. Ils interviewaient les gens et les gens répondaient en anglais. Jusque-là, je parle l'anglais encore. Et j'entends mon accent. C'est France Info. Vous imaginez ça? C'était vraiment chouette. Et d'un seul coup, le voix off vient traduction française. Pendant 5 jours, à peu près, j'écoutais France Info dans ma ville natale. Chaque entretien démarrait en anglais et se terminait en français, je l'ai expliqué. Ça démarrait avec l'opinion du cantonais et ça se terminait avec une perversion à la française. Toutes les paroles étaient totalement changées. Totalement changées dans la traduction. Je me suis arrêté à peu près le 5e jour quand j'ai commencé à crier sur la poste dans la voiture. J'ai écrit une lettre au président de Radio France qui est responsable de tout ça. J'ai dit, mais écoute, je comprends l'anglais. J'ai un passeport français aussi. Je comprends les deux parfaitement. Et pourquoi vous changez systématiquement le sens, le contenu de ce qui est dit? Et là, des mensonges quotidiens. Et depuis, je suis beaucoup plus sensible. Vous entendez les mensonges tous les jours? Oui. Je rêve d'un jour sur Terre. Ah, un jour sur Terre. Il n'y a plus de mensonges. Ça change la Terre entière. Le credo corrige les erreurs. Aucune secte peut dire le credo. C'est impossible. Il n'adhère pas. Troisième point, le credo fournit des règles pour l'enseignement dans l'Église. C'est un garde-fou pour les enseignants. On peut se référer au credo et c'est solide, ça ne bouge pas. Quatrième point, c'est un peu mystique. On commence, je crois en Dieu le Père. Et on le proclame. Mais le rôle de l'adoration, nos temps de louange, c'est de fusionner le « je » avec le « nous » et que ça devienne « nous ». Que nous croyons en tant que communauté, nous croyons ensemble en Dieu le Père, nous croyons tout ça. Et ce n'est pas qu'on doit chanter le credo tous les cultes, ce n'est pas du tout ça, mais c'est une action complémentaire, le credo, l'adoration, la louange, et les deux sont fusionnels, si on le comprend bien. Cinquième point, le credo résume la foi. Beaucoup d'églises se privent du credo, et c'est dommage, ça donne le résumé mieux qu'aucun d'entre nous peut faire. Personne ne peut faire mieux que le credo. Dernier point, ça donne une définition. Ça donne une définition, une véritable unité chrétienne. J'ai lu un théologien qui s'appelle Pélican. Tu connais Pélican, Philippe? Théologien Pélican? Non, pas l'autre. Mais Monsieur Pélican. Et je trouve, j'ai dû vraiment travailler sur cette phrase, et cette phrase m'a impacté. Me change vraiment la perspective, la manière que je vois le credo, la manière que je vois beaucoup de choses dans l'Église. Et M. Pélican a dit ceci. La tradition est la foi vivante des morts. La tradition est la foi vivante des morts. Le traditionnalisme est la foi morte des vivants. Ok. La tradition est la foi vivante des morts. C'est la foi de tous ceux qui nous ont précédés, transmis à nous, à notre génération. C'est le dépôt de foi qui nous transmet. C'est tradition chrétienne. Le traditionnalisme, c'est la foi morte des êtres vivants. Il y a beaucoup de gens qui marchent par traditionnalisme et il n'y a pas de foi derrière.
Cette session est maintenant terminée. Nous vous invitons à écouter la suivante.